Vous écoutez On lit pour vous.
Adoption, Maison des fous. Un texte de Anne-Frédéric Hébert-Dolbecq, paru le 15 octobre 2024 dans Le Devoir. J'ai toujours su que je voulais un enfant, écrit Catherine Voyer-Léger dans L'essai adoption. Les 12 travaux de la banque mixte. À 35 ans, célibataire et plus déterminée que jamais à fonder une famille, elle a évalué ses options. Pour elle, le choix s'est imposé, l'adoption en banque mixte. Ce programme méconnu constitue la forme d'adoption la plus répandue au Québec. Comme l'explique l'écrivaine, il permet à des jeunes placés sous la direction de la protection de la jeunesse, DPJ, dont les pronostics de retour dans leur famille d'origine sont faibles, d'être confiés à des familles d'accueil enclines à les adopter à terme. Le programme a par ailleurs fait les manchettes ces derniers jours, après que le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, eut mis sous tutelle la DPJ de la Mauricie et du Centre du Québec, à la suite d'un reportage choc de la presse, selon lequel des enfants se sont retrouvés dans le processus de la banque mixte, sans toutefois en respecter tous les critères. Un manquement grave à leurs droits. Bien que l'histoire de Catherine Voyer-Léger et de sa fille se soit déroulée du bon côté de la loi, elle n'a pas été sans embûches. En effet, 8 ans se sont écoulés entre son inscription à la banque mixte et l'adoption finale. 8 ans de délais et d'imprévus administratifs, de complications juridiques et d'instabilité dans les suivis et les intervenants affiliés au dossier, le tout saupoudré d'un manque criant de ressources et d'une grande incertitude. Ainsi, lorsque la maison d'édition Parfum d'encre lui a proposé d'écrire un livre sur la solo-parentalité, l'autrice de « Noué », paru chez Québec-Amérique 2022, a tout de suite fait une contre-proposition. Informée sur le programme de la banque mixte et déboutée des mythes sur cette voie trop peu connue de l'adoption. À ce volet plus informatif, s'est vite greffé le récit de son histoire familiale, devenu ensuite la colonne vertébrale de son essai. Elle était toutefois loin de se douter dans quelle mesure ce projet d'écriture la marquerait en profondeur et la ferait passer par une panoplie d'émotions et de remises en question. J'ai longtemps pensé que ce que je vivais était anecdotique, raconte Catherine Voyer-Léger au téléphone. Je croyais que c'était moi le problème, que je n'étais pas assez bonne pour faire face à tous les défis de ce type de parentalité. Puis, en rencontrant plusieurs familles au parcours similaire, j'ai compris que nous étions plusieurs à partager les mêmes fardeaux affectifs et administratifs et à ressentir une érosion de la confiance envers le système. J'ai douté jusqu'à la dernière minute, mais j'ai finalement pris mon courage à deux mains pour prendre la parole, faire connaître ma réalité et celle d'autres familles et espérer que les choses changeront. Des services inégaux. L'autrice a donc opté pour une forme hybride, intégrant à son récit personnel des informations clés sur les rouages du programme et les problèmes systémiques. Elle y inclut également des entrevues avec des spécialistes et des témoignages de parents qui sont passés par le même chemin. Il n'y a pas une seule histoire de banque mixte qui peut résumer le processus de banque mixte, souligne l'écrivaine. Chaque histoire est unique, comprend des facteurs, des délais et des défis différents, et je ne veux surtout pas qu'on s'imagine que mon histoire résume l'expérience du programme. Catherine Voyer-Léger s'attelle donc à informer les familles intéressées par des démarches d'adoption de ce qui les attend. L'autrice dénonce aussi le manque d'accompagnement et de ressources et la grande disparité dans ces dernières entre les différentes régions de la province. À la DPJ, dit-elle, je pensais être au meilleur endroit pour obtenir de l'aide. Or, ils n'ont généralement ni le temps ni les moyens d'assurer des suivis. Quand on m'a présenté le dossier de celle qui allait devenir ma fille, on m'a prévenu des multiples problèmes qui pouvaient entraver son développement. Or, lorsque j'ai eu besoin d'aide, il n'y avait personne pour répondre à l'appel. Je croyais que c'était moi le problème, que je n'étais pas assez bonne pour faire face à tous les défis de ce type de parentalité. Elle a donc dû se tourner vers le privé et vers les interminables listes d'attente pour avoir accès à des intervenants généralistes dans l'espoir d'avoir réponse à ses questions et de développer des outils pour mieux accompagner sa fille dans ses nombreuses difficultés. Ne sachant pas où aller, j'ai d'abord été orienté vers des psychoéducateurs et autres intervenants qui n'étaient pas spécialisés en adoption. Ils n'étaient pas toujours en mesure de me diriger au bon endroit dans mes interventions. Le vent a tourné en 2021, soit 4 ans après l'arrivée de sa fille dans sa vie, lorsqu'elle a déménagé à Montréal, une région où les services sont plus développés et les ressources plus nombreuses au sein même de la DPJ. Ma vie a changé lorsque je me suis retrouvé devant des spécialistes post-adoption. Plus personne n'était surpris de ce que je racontais. J'ai alors reçu de l'aide spécifique aux problèmes d'ordre affectif que je rencontrais avec ma fille. Ces ressources devraient être disponibles partout. Un parcours en solitaire. Adoption. Les 12 travaux de la banque mixte est donc traversée de la solitude de son autrice, parfois complètement démunie devant l'ampleur administrative des démarches, la recherche vaine de soutien, les changements d'intervenants, les défis démesurés de sa parentalité et les jugements et l'incompréhension que suscitent encore aujourd'hui ces derniers. Je ne peux compter le nombre de fois où l'on ne m'a pas cru, parce que la différence de ma fille n'est pas visible physiquement ou intellectuellement. C'est plus difficile de justifier l'ampleur des besoins qu'elle a en matière d'accompagnement. Même chez les proches, il y a souvent des mythes qui circulent, que l'amour guérit tout, par exemple. Donc, si ça ne va pas bien, c'est parce que je ne l'aime pas assez. J'entends aussi souvent le fameux « elle ne s'en souviendra plus le jour de ses noces ». Je n'en reviens pas de devoir répéter ça 125 ans après Freud, mais il y a des blessures qui laissent des marques durables, même si on n'en garde pas de souvenirs précis. Catherine Voyer-Léger évoque aussi les sentiments contradictoires qui peuvent habiter les familles banques mixtes. Souvent tenues d'assurer, avant l'adoption officielle, certains liens avec les parents biologiques de l'enfant. Elle relate notamment son impression d'avoir ressenti que ces derniers n'étaient pas toujours traités équitablement. J'ai souvent dû les renseigner sur une date d'audience, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas été informés. En même temps, j'ai vécu beaucoup d'anxiété et de confusion au début. C'est difficile de ne pas se demander si la famille d'origine va mieux, s'ils vont se prendre en main et reprendre l'enfant. Et au contraire, quand ça va mal, on te dit que c'est une bonne nouvelle pour ton dossier, mais ça ne donne pas envie d'ouvrir le champagne. Il y a quelqu'un qui souffre. Quand on lui demande ce qu'elle aurait aimé savoir avant de se lancer dans l'aventure et ce, malgré les 2 rencontres d'informations obligatoires et les nombreuses évaluations avec des intervenants de la DPJ, elle marque un temps d'arrêt. La première question que je pose aux gens intéressés, c'est toujours « Avez-vous un fonds d'intervenant en vous ?» Même si ce n'est pas certain, il existe une probabilité plus grande pour un enfant adopté que pour un enfant biologique d'avoir, notamment, des problèmes d'attachement et d'avoir besoin d'un soutien plus spécialisé. Pour moi, ce n'était pas inné. Il a fallu que je le développe et je n'ai pas toujours été accompagné de manière optimale, ce qui a ralenti notre guérison. Le processus est vraiment long. On a l'impression que tout va se régler avec l'adoption, qu'on pourra mettre ces moments difficiles derrière nous, mais c'est loin d'être toujours le cas. C'était « Adoption, maison des fous », un texte d'Anne-Frédéric Hébert-Dolbecq paru le 15 octobre 2024 dans Le Devoir.
Mille paniers de la rentrée distribués par la Fondation Roch-Guertin. Un texte de Jean Harel et Charlotte Dubois, paru le 21 septembre 2024 sur Ici Estrie. L'entraide était à l'honneur samedi, alors que la Fondation Roque-Guertin a distribué des paniers de la rentrée à 1000 familles de Sherbrooke. C'est une augmentation de 300 paniers si on compare avec l'automne dernier. Quand je suis arrivé à la Fondation en mars 2023, on faisait une dizaine de dépannages par mois. Au mois d'août, on vient de le terminer, on en a fait 271. C'est énorme. Les gens ont vraiment besoin d'un gros coup de pouce, souligne la directrice générale de la Fondation Roque-Guertin, Solange Rodrigue. Selon plusieurs demandeurs, l'inflation et la hausse des loyers peuvent être tenus responsables en grande partie des nombreux besoins de la population. C'est sûr que l'inflation, le gaz, ça coûte cher et on essaie de se démener avec ce qu'on a. Pourvu qu'on ait un toit, de la nourriture et de l'électricité. C'est tout ce dont on a besoin, confie une bénéficiaire. Chaque panier a une valeur de 250 $. On fait des campagnes à l'entreprise pour des dons ciblés maintenant de certains aliments qui coûtent de plus en plus cher. Il faut être innovant, souligne la présidente du conseil d'administration de la Fondation Roque-Guertin. La Fondation peut toujours compter sur ses nombreux bénévoles, jeunes et moins jeunes. J'avais besoin de me sentir utile et de dépenser un peu d'énergie physiquement. On est un beau groupe, on s'entend bien et c'est vraiment agréable, témoigne une bénévole, Cécile Saint-Pierre. L'entrepôt de l'organisme devra se remplir à nouveau en vue de la prochaine grande campagne, celle des paniers de Noël. C'était 1000 paniers de la rentrée distribués par la Fondation Roque-Guertin, un texte de Jean Harel et Charlotte Dubois, paru le 21 septembre 2024 sur Ici Estrie. Monsieur Pinard. Un texte d'archives d'Yves Boisvert, d'abord paru le 8 mai 2022, puis le 3 octobre 2024 dans la presse. Notre chroniqueur Yves Boisvert s'était entretenu avec Daniel Pinard à l'occasion de son 80e anniversaire en 2022. Au menu, l'horticulture, la littérature et l'art de vieillir. La porte du loft est entrouverte. J'entre. Les haut-parleurs murmurent des études pour piano de Bach. Malgré le temps gris, la lumière du jour traverse le rideau de plantes vertes suspendues et inonde l'espace ouvert de cet ancien immeuble industriel. Au comptoir traîne un dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Sur les pages qui se détachent à force d'avoir été tournées et retournées, des phrases sont surlignées en vert, en jaune, en noir, lui donnant l'air d'un fruit pressé et repressé pour donner encore du jus. Daniel Pinard apparaît lentement. Ses yeux bleus semblent briller encore plus au milieu de ce visage maintenant dominé par une barbe blanche. « Pourquoi tu viens me voir, au juste? »« Pour avoir de tes nouvelles. »«
Ben là! »
La première fois que je l'ai rencontré, c'était pour un reportage sur les jardins urbains. Il habitait rue Topper, en plein centre-ville, et faisait la guerre aux chats qui squattaient ses plates-bandes amoureusement cultivées. Ses plantes sont maintenant ses colocs. « Qu'est-ce que tu fais de tes journées? » « Je regarde pousser mes plantes. » « Vraiment. » « Je m'assois et je les regarde. » « Tu vas me trouver fou, mais je suis persuadé qu'elles se parlent comme les arbres communiquent entre eux dans la forêt. » Je n'en ai jamais perdu une seule. J'ai trouvé la façon de les nourrir pour compenser le mal-être qu'elles ont d'être à l'intérieur. Je crois qu'elles savent qui je suis. Je me retiens d'en haïr une seule. Je crois qu'elles claqueraient. Pourquoi? Qui n'est pas aimé en meurt. Je lui demande ce qu'il trouve dans « À la recherche du temps perdu » pour l'avoir lu et relu, y revenir à travers un dictionnaire sur l'auteur. Tout. C'est un livre total. C'est un essai sur la mémoire et un travail sur la langue. Le temps perdu. De 70 à 80 ans, je n'ai rien vu passer. Je me dis, tabarnak, j'ai 80 ans, faudrait que je commence à me conformer. Il éclate de rire. Tu as une barbe. Peter Berger, son ancien prof américain de sociologie, me disait qu'en vieillissant, en se regardant, il était comme un enfant qui dévisage un vieux. Avec la barbe, l'enfant ne reconnaît plus ce vieux qu'il dévisage. Il marche péniblement, mais ne veut pas s'appesantir sur son état et ses 17 maladies, dont aucune n'est mortelle, mais qui, additionnées, lui donnent l'impression de partir tranquillement. J'essaie d'habituer mon médecin à l'idée que je ne le consulte pas pour m'empêcher de mourir. J'ai une grande peur de l'hôpital et de me faire pogner dans l'empire médico-légal. Je dis à mon ami qui vit dans l'appartement d'en bas, si jamais ça ne répond pas, n'appelle surtout pas la police pour me sauver. Tu reviendras le lendemain quand tu seras sûr que je serai mort. J'ai vu ça au Brésil, chez les pauvres en particulier, des gens qui envoient des espèces de faire-part pour annoncer leur mort. Du genre, Monsieur Untel a le plaisir de vous inviter à assister à ses derniers soupirs. Ça n'a rien de sinistre. Ils font une bouffe, ils prennent un verre, ils parlent de toutes sortes de choses. Je ne partage pas cette passion qu'on a pour allonger la vie. Ça tient d'une forme de comptabilité des sociétés capitalistes. Comme si plus d'années, c'était forcément mieux. Des fois, je me dis que, pour me faire mourir, je devrais aller en Suisse. C'est bien la seule raison d'y aller, quant à moi, pour en partir. Il éclate encore de son rire malicieux, plein de cette sincère mauvaise foi. Il a donné instruction qu'on l'incinère et qu'on répande ses cendres dans la roseraie du jardin botanique où sa mère l'emmenait et dont il passait des heures à dessiner les plantes. Mais c'est plus pour les fleurs que pour le souvenir de sa mère. « Ma mère ne nous aimait pas, mon frère et moi, » dit-il objectivement. Je me vengeais en tombant malade. À 5 ans, j'ai eu la polio, et les médecins avaient décrété que je ne devais pas trop marcher. Elle m'attachait à une laisse sur la galerie. Un jour, Michel Garneau, qui n'était pas encore poète, mais un peu quand même, m'a emmené acheter un cornet de crème glacée à la fraise. C'est un de mes plus beaux souvenirs à vie. Pensionnaire au primaire, puis à Brébeuf, même s'il habitait à 500 mètres, son enfance a été un malheur intense. Athée, dans un collège jésuite où on lui reprochait ses lectures impies, Gide, ou pire encore, Sartre, gay avec des parents qui ne le prenaient pas. Il a quitté la maison avant d'avoir 18 ans. Son père, l'avocat Roch Pinard, ministre fédéral sous Louis Saint-Laurent, lui disait qu'il avait juste à choisir l'autre bord pour ne plus être homosexuel. Il me disait « Pis, es-tu encore de même ?» ou, en passant, « Homme aux hommes ». J'ai longtemps cherché d'où venait la haine des gays, dit Daniel Pinard. Je crois que ça vient du fait que ça oblige les gens à se rendre compte qu'ils n'ont pas choisi leur propre orientation. À la fin de sa vie, il y a presque 50 ans, son père était allé vers lui. Il s'était informé. Il avait évolué. Les deux se sont réconciliés. Mais avant, Daniel a trouvé refuge dans les livres, dans la chaleur méditerranéenne des noces à Tipaza de Camus. Il se met à pleurer en pensant à ce 4 janvier 1960 où l'écrivain est mort dans un accident de voiture. Il est allé se recueillir peu de temps après sur le monument à sa mémoire, sur les lieux de l'accident, à Villeblevin, en France. J'ai toujours été braillard, désolé, parfois c'est franchement affligeant. Au début des années 1960, il s'est ensuite exilé sous un autre soleil, celui du Brésil, où il a vécu pendant 5 ans avec celui qu'il appelle Jaco, un gestionnaire américain qui a été son conjoint pendant des décennies. Vous écoutez « Monsieur Pinard », un texte d'archives d'Yves Boisvert, d'abord paru le 8 mai 2022, puis le 3 octobre 2024 dans la presse. « On ne sait pas vivre si on n'a pas été déraciné, je crois. » À l'époque, j'étais plus brésilien que les Brésiliens. Dany Laferrière, qui pour moi est un génie, m'a ouvert à l'idée qu'on est d'un pays que l'on a choisi. Tu as le droit de te faire un pays de neige et de sable, de délire et de malheur, où il y a les plages à la végétation abondante au Brésil, le Corcovado de Rio de Janeiro et l'oratoire Saint-Joseph. En vieillissant, je ne retourne pas en enfance. Je me recompose des paysages. Après le Brésil, il y eut New York, où il a entrepris un doctorat en sociologie à Rutgers. Il comparait l'esclavage dans le sud des États-Unis et au Brésil, où il a découvert, sous des dehors de métissage joyeux, le même racisme profond. Il y a 28 mots pour décrire les nuances de couleur de peau. On n'arrête pas d'expier la faute de l'esclavage. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil. C'est comme si les Blancs ne pouvaient pas pardonner aux Noirs qui sont le rappel de leur ignominie. De retour au pays, il a été journaliste aux affaires publiques à Radio-Canada, au Maclean's, devenu l'actualité, à l'Office national du film, au Devoir. Comme il avait la réputation d'avoir la meilleure table privée en ville, son amie Suzanne Lévesque l'a invité à faire une chronique à son émission de radio. Ses propos culinaires, humoristiques, étaient en fait un prétexte pour parler de politique et d'affaires publiques et, sous couvert de recettes, le homard pouvait devenir une métaphore du fédéralisme canadien. Il n'avait aucune ambition de devenir une référence en la matière. C'est devenu une chronique dans Le Devoir, une émission à Télé-Québec, Ciel Montpinard, une autre à Radio-Canada, une chronique chez Paul Arcan, deux livres de recettes et propos vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Il me confie qu'avant et pendant chaque enregistrement de son émission, il sifflait une bouteille de vodka au complet. Il lui fallait être dans un état second pour affronter les crises d'angoisse qui l'étouffaient avant d'aller sur le plateau. Crois-tu que tu as eu une influence sur la culture québécoise? Je suis obligé de dire oui, je m'en rends compte. En journalisme comme en cuisine, j'ai voulu libérer les gens de la peur, qu'ils cessent d'obéir. Pour moi, suivre une recette, c'est le comble de la servilité. Une cuillerée à soupe et demie, 12 grammes de farine, pas 11 ni 13. Quelle outrecuidance! Le lien entre la campagne et l'assiette ne s'était pas fait dans l'esprit des gens. Je m'y suis intéressé. Plus les années passaient, plus je devenais militant. Mais je sais que les gens voulaient surtout des recettes. Il a eu ses passes d'armes avec les faiseurs de régime, les nutritionnistes et bien sûr les dirigeants de la puissante Union des producteurs agricoles. Eux autres, je les haïs encore beaucoup. Il fait ainsi une exception à sa devise d'amour universel qu'il vient de m'exposer. Il ajoute, sans se vanter, mais non sans fierté, que malgré son corps qui s'effondre, il fait une cuisine meilleure que jamais et m'explique sa nouvelle technique de sauce. Ça vient d'où, cet amour de la cuisine? Ça vient des bonnes polonaises qui nous faisaient la bouffe. C'étaient les seules personnes qui s'intéressaient à moi. J'ai gardé d'elles un moule à geler en forme de lapin. C'est un peu autour de la table qu'il s'est réinventé une famille. La famille n'a de bienfait que si on l'a choisi, dit-il. Il me parle encore de la Ferrière, une de ces personnes qui l'impressionne au point de le rendre aphone et de le faire changer de trottoir si jamais il le croisait. L'énigme du retour, c'est la réponse à la peste de Camus. Il t'invite très généreusement à contempler le vide. Il me parle de la scène du cimetière dans « Anne Tristère » de Léa Poule. On ne fait pas semblant qu'on est éternel en mettant des blocs de granit sur les tombes. C'est pour empêcher les gens de sortir. Il me parle de la guerre, qui porte au dégoût de soi. L'Ukraine, ça me fait brailler sans arrêt. Notre incapacité à nous défendre contre le mal. Le Brésil, c'est comme s'il m'avait trahi. Il y avait déjà toutes les injustices qu'on connaît, sauf qu'elles n'étaient pas acceptées avec véhémence comme sous Bolsonaro. Mais il parle aussi des beautés tout autour qu'il touche. Une des choses qui m'émeuvent le plus, dit-il, c'est les jeunes pères avec leur enfant dans les bras. Des fois, je m'approche et je dis à l'enfant, « T'es ben chanceux. » Les jeunes pères sont tellement plus heureux que nos pères. On en revient à l'art de vieillir, au sentiment de déconnexion. Je me rends compte que je ne comprends plus ce que c'est que d'avoir 18 ans. Je ne sais pas à quoi rêvent les gens de 18 ans. Ce n'est pas triste. C'est un constat. À 18 ans, je rêvais à l'indépendance du Québec. Nous avons été révolutionnaires sans le savoir, et les transformations que nous avons accomplies sont ce qui nous a empêchés de désirer l'indépendance. Il balaie la grande pièce du regard. Il me montre une sculpture, un tableau, un bibelot, une bouteille. J'apprends le plaisir de me détacher des choses. Rien ne va durer. Mes objets sont pleins de mémoire, mais elle n'est que de moi. Ils ne veulent rien dire pour les autres. Ils cherchent le nom des gens, mais se souviennent des phrases. Qui a dit ça déjà? La liberté, c'est de se conformer à la capacité du rêve. Il parle de la nécessité de s'évader du temps présent, mais aussi de vivre le moment présent. J'ai toujours trouvé ça con, mais maintenant, c'est le nec plus ultra pour moi. 3 heures ont passé. Mais pourquoi tu voulais me voir déjà? C'est quoi ta recette de sauce? C'était M. Pinard, un texte d'archives d'Yves Boisvert, d'abord paru le 8 mai 2022, puis le 3 octobre 2024 dans la presse.